Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin, au micro de Chrétien d'Orient, je suis en compagnie d'Anaïde Termination. Bonjour Anaïde.
Bonjour alors, Sébastien de Courtois.
Fidèle, parmi les fidèles à nos rendez-vous dominicaux, nous allons continuer avec vous d'explorer cette découverte des mondes arméniens. Alors je rappelle que vous étiez venu il y a quelques semaines pour évoquer la figure d'Antoine Poitebard et cette mission en Arménie. Donc tout de suite après la fin de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, lorsqu'il décrit, il évoque cette première indépendance arménienne.
Première République d'Arménie.
Voilà, Première République d'Arménie, exactement. Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près dans la même période. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes après 1915. Et la question que nous nous posons ensemble ce matin, c'est qu'advient-il des autorités religieuses ? Petit rappel historique que vous me permettrez de faire. Avant la Première Guerre mondiale, il existait quatre lieux de direction spirituelle. Vous me pardonnerez, Anaïde, mais je schématise, bien entendu, parce que nous avons peu de temps. Le premier étant Etchmiadzin, donc qui est sur le territoire de l'Arménie contemporaine. Le second étant Constantinople, Istanbul. Le troisième lieu est ce qu'on appelle le Catholicat de Cilicie, donc c'est-à-dire le sud-est de la Turquie actuelle. Et enfin, quatrième lieu spirituel important, le patriarcat arménien de Jérusalem. La guerre se passe, les déplacements de population, cette diaspora, qu'advient-il de l'autorité religieuse ?
Voilà, c'est un grand problème que le sort de cette église apostolique arménienne, que je prendrai moi à partir de 1917, c'est-à-dire de la révolution bolchevique, du triomphe de la révolution bolchevique, qui a permis au catholicos d'Etchmiadzin, Kevork V, d'introduire des nouveautés, même une véritable révolution dans ses relations avec le pouvoir central russe de l'époque. C'est la période où, au cours de la première révolution russe, en février 17, les nouveaux gouvernants, proclament la séparation de l'Église et de l'État, de l'Église orthodoxe et de l'État russe, ce qui est fondamental. L'Église arménienne, l'Église apostolique arménienne, jouissait d'un statut particulier. Et ce Catholicos Kevork V va profiter de la situation pour, à son tour, proclamer la fin de ces relations qui étaient des relations un peu d'autorité, d'oppression du pouvoir russe sur l'Église arménienne, de proclamer la séparation de l'Église et de l'État et de tenter et même de réaliser en l'année 17 un véritable synode de l'Église arménienne à Etchmiadzin, c'est-à-dire au Caucase. Et ça, c'est fondamental parce que à cette date-là, l'Église apostolique arménienne a pratiquement cessé d'exister dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, où vous avez évoqué tout à l'heure l'existence d'un patriarche à Istanbul, où il y avait 49 thèmes, ce qu'on appelait les thèmes, on utilisait encore la terminologie grecque pour...
C'est-à-dire des provinces.
Des diocèses. Il y avait 49 thèmes. Et ce qu'on peut dire, déjà, à la fin de la Première Guerre mondiale, sans que ces chiffres soient exacts, mais on peut, si vous voulez avoir une idée des grandeurs, on pense que 4 000 desservants de l'Église apostolique arménienne ont disparu pendant le génocide. Plus de 3 000 églises, monastères, monuments religieux de toutes sortes ont été saccagés, détruits ou ne sont plus qu'à l'état de ruine. Bon, et donc, ce catholicos Kevork V à Etchmiadzin, qui est le catholicos de tous les Arméniens, Amenan Hayots Katorigos, c'est-à-dire celui qui a l'autorité suprême sur l'Église apostolique arménienne, est devant une situation de désastre, mais pour laquelle il ne peut rien faire. En 17, la guerre continue. Et le synode qu'il réunit permet simplement de réunir des prêtres caucasiens ou vivant des prêtres arméniens de l'Empire russe, et de faire un état des lieux, c'est-à-dire rappeler ce qui est en train de se passer dans l'Empire ottoman, constater que le Caucase est envahi par une nuée de réfugiés arméniens, qui sont en train
venant des terres anatoliennes, donc qui se réfugient vers le Caucase, vers l'Est.
Parce que la guerre continue. Bon.
Donc en pleine Première Guerre mondiale, en 1917, vous nous
1914, 1918.
Vous nous dites qu'en 1917, ils pensent, les autorités religieuses pensent à ce synode.
Oui.
À convoquer ce synode.
Bon. Et pendant ce synode, ce catholicos réussit à mettre autour de lui quelques vartabètes. Les vartabètes, ce sont les, dans l'église apostolique arménienne, les docteurs de la loi, qui vont jouer un rôle extrêmement important, mais après la fin de la guerre, c'est-à-dire, grosso modo, après 1920, et qu'il réussira, lui, à envoyer en mission, soit en France, soit aux États-Unis, soit au Moyen-Orient, au moment où est en train de se constituer la grande diaspora. Rappelons simplement aussi que, en 1918, comme on l'a vu dans l'émission que nous avons fait ensemble sur Antoine Poidoire, ce jésuite français, ce capitaine français, qui est l'unique représentant de la France dans la République d'Arménie de mai 1918 à novembre 1920, dans cette République d'Arménie, ce catholicos d'Etchmiadzin, qui est à 15 kilomètres de la capitale de la République, c'est-à-dire Yerevan, va être amené à jouer un nouveau rôle. Dans la période précédente, c'était un hiérarque de l'Empire russe. Désormais, il est, bon gré, mal gré, associé à cette République indépendante, qui d'ailleurs lui rendra les honneurs. En 1919, il va procéder à la proclamation de l'Arménie libre, indépendante et réunifiée. Réunifiée, ça voulait dire non seulement l'Arménie caucasienne, mais les futurs territoires de l'Empire ottoman qui seraient raccordés ou accordés à cette république. Donc il joue un rôle, un vrai rôle. Bon. Mais en même temps, cette période est une période de déchristianisation des Arméniens. Parce que les gens qui arrivent là sont des jeunes qui ont connu la guerre, qui sont souvent des socialistes, des marxistes ou des pseudo-marxistes, en tous les cas des sans-dieu, bon, et qui vont négocier avec cette église arménienne une sorte de contrat, mais qui n'aboutira pas parce que la soviétisation arrive dès le début de l'année 1921, dans lequel l'Église aurait sa place, mais l'État conserverait la haute main sur l'instruction, l'éducation, qui était, je vous le rappelle, dans les périodes précédentes, l'apanage de l'Église apostolique arménienne. L'éducation primaire, bien sûr. Je ne dirais... Et un ou deux monastères qui jouaient le rôle d'une école secondaire, et puis il y avait quand même aussi quelques collèges de renom, qui étaient le collège Nersessian à Tiflis, et puis le collège qui avait été créé à Etchmiadzin, même, qui était en vérité un lieu où on accueillait les futurs prêtres, mais qui était devenu Etchmiadzin, le séminaire d'Etchmiadzin, le grand séminaire d'Etchmiadzin, était devenu une pépinière de révolutionnaires. Exactement comme le séminaire de Tiflis où avait grandi à quelques mètres de là Staline. Bon, ça c'est bien cool. Bon, voilà pour la situation à Etchmiadzin.
Donc là, vous nous décrivez un état critique. On sent très bien, d'après vos propos, que l'Église ne peut pas survivre, à cette épreuve.
Oui, mais l'Église n'est plus... si vous voulez, la République d'Arménie est une république qui se veut laïque, mais qui reconnaît à l'Église sa place centrale dans l'histoire du peuple arménien depuis le 4e siècle. Voilà, ça c'est pas contestable, mettons depuis le 5e siècle. Et surtout qui reconnaît à l'Église sa place centrale dans la création de ce qui va être la culture, la base de la culture arménienne, c'est-à-dire l'alphabet arménien.
Bon. Donc ce que vous nous décrivez, Anaïde Termination, c'est une forme de sécularisation finalement, oui, dans l'épreuve de la société arménienne.
Oui, c'est une forme de sécularisation, mais dans une société arménienne qui est dans un état épouvantable, qui est déchiqueté. Nous avions vu dans l'émission avec Antoine Padoire la situation des réfugiés. Tout le Caucase était peuplé de réfugiés qui venaient de toute origine, qui tournaient, je dirais, en rond pour trouver un lieu pour s'établir. La région était menacée par la famine, par le typhus, etc. Donc, dans ces conditions-là, la situation de l'Église arménienne était une situation position, je dirais, honorifique. Mais Don Quévorque V savait jouer, puisqu'il a pratiqué une sorte de diplomatie parallèle avec les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Voilà ce qui se passe, disons, grosso modo, avant la soviétisation de l'Arménie, qui va être une période de grande épreuve.
Une
nouvelle période d'épreuve et qui est tout de suite marquée par, alors, la confiscation des biens de l'Église. Bon, c'était pas grand chose. L'Église n'avait pas de grands biens. C'était pas un grand propriétaire. En Arménie, tout était petit. Bon, mais néanmoins, la confiscation des biens de l'Église, la fermeture d'un certain nombre d'églises, la fermeture du grand séminaire qui avait joué ce rôle si important dans la formation involontaire des révolutionnaires arméniens, l'interdiction de l'imprimerie, l'interdiction de l'enseignement, donc, y compris dans les écoles primaires, et même, peut-être encore plus grave encore pour l'Église, l'interdiction sous peine de pratiquer toute forme de prosélytisme religieux, en dehors de l'école, prosélytisme oral. Ça se traduira, par exemple, ça c'est quelque chose qui a, au cours des temps, indigné les archéologues, la destruction de la plus vieille église de Yerevan, Boros Pedros, Paul et Pierre, ou Pierre et Paul, comme vous voudrez, on détruit cette église, et sur les bases de cette église, sur les fondements, on construit le grand cinéma Moskva, signe des temps modernes, voilà, qu'on offre à la jeunesse arménienne. Alors, ce Catholicos va donc vivre des moments très difficiles. Mais ces moments difficiles, il va les sublimer de deux façons. Il va réussir à ne pas heurter de front les autorités bolcheviques en faisant accepter la création d'un conseil spirituel suprême, qui est une sorte de, disons, conseil administratif de l'Église apostolique dans les cadres de l'Arménie soviétique, peuplé de laïcs, ça c'était un des grands thèmes du synode de 1917, c'est-à-dire donner une place plus grande aux laïcs, plus visible, en y introduisant aussi les femmes, comme dans l'Église primitive. Bon, c'est accepté par les communistes parce qu'il y a beaucoup de laïcs, parce que la majorité est laïque, mais ce conseil spirituel suprême permettra, bien entendu, au cours de l'histoire de l'Arménie soviétique, qui dure quand même 70 ans, de contrôler de très près tout ce qui se passe à Etchmiadzin, et en particulier les différents catholicoi successifs. Bon. Et deuxièmement, en 1925, il réussit à faire passer un texte qui est simplement une proposition pour l'organisation des conciles nationaux, conciles qui vont permettre d'élire ses propres successeurs, car l'obsession de ce Quévorque V, qui a tout perdu, qui est dans une église vide, comme le constateront des grands voyageurs qui sont allés en Arménie soviétique dans les années 20, c'est d'assurer sa succession, c'est d'assurer à tout prix l'existence de l'Église comme institution, quel que soit le prix à payer. Et depuis 1925, curieusement, cette Église n'a pas réussi à se doter d'une constitution, et une particulière pour l'élection du catholicos, chaque fois qu'un catholicos disparaissait. Et donc, c'est celui qui a été appliqué jusqu'en 1999 pour l'élection du catholicos actuel en Arménie.
Alors, rappelons le nom de ce catholicos.
Quévorque V.
Qui semble très important, Quévorque V.
Meurt en 1930.
On comprend bien que vous décrivez donc ce patriarcat d'Etchmiadzin qui correspond à la partie contemporaine de l'Arménie d'aujourd'hui. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le monde arménien a été divisé en plusieurs centres spirituels. Que se passe-t-il dans ces marches, d'une certaine manière, post-ottomane, post-guerre, de reconstitution de la diaspora arménienne, de cette identité arménienne?
Bon.
Parce que le contact est coupé, j'imagine, entre le Caucase soviétique et ces mondes.
Il a été rétabli en 1919, une fois que l'Empire ottoman a demandé...
Oui, mais ça passe très vite, non ?
Ça passe très vite, 1922 quand même.
Oui, c'est 1922
jusqu'à la victoire des Kémalistes. Mmh. Bon. Et après, d'ailleurs, du côté de la... Il faudrait reconnaître quand même cela, après le traité de Lausanne, 1923, avec les conséquences du traité de Lausanne, comme vous vous rappelez, des choses extrêmement importantes comme l'échange de population entre la Grèce et la Turquie. C'est très important. Et puis, les droits reconnus par l'État kémaliste, enfin la nouvelle république turque, aux minorités non musulmanes. Hein, donc, sans que le mot arménien soit prononcé. Donc, le patriarcat pratiquement est supprimé en 1922 par démission involontaire du patriarche, hein, qui s'appelait Zaben. Et il y a le Komtenens qui va rester là pendant 8 ou 10 ans, jusqu'à ce que l'État turc reconnaisse sa capacité d'être un patriarche. Mais ce patriarche à Istanbul ne représente plus grand-chose. Il a les ailes complètement rognées.
Une coquille vide, comme une église vide, comme vous décriviez tout à l'heure le patriarcat d'Echmiadzin.
Il n'a plus aucun pouvoir, ou pratiquement aucun pouvoir, sur ce qui se passe en Anatolie. L'Empire ottoman lui-même a éclaté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 49 thèmes, mais ces thèmes comprenaient aussi les thèmes des territoires arabes. Syrie, Liban, Jordanie, Arabe, tout ça. Ça échappe désormais au patriarche, et ce patriarche maintenant a un tout petit territoire qu'il peut contrôler, c'est-à-dire les églises arméniennes d'Istanbul, mais il est assujetti à des règles très précises qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui est que le futur patriarche, quand un patriarche meurt ou quand il est suspendu pour une raison quelconque, doit être toujours quelqu'un qui est né en Turquie et qui a la citoyenneté turque.
Oui, c'est la même chose pour la question du patriarcat écuménique, donc la tradition pour la tradition grecque. Dites-moi juste, nous avions évoqué le patriarcat de Cilicie.
Oui.
Que se passe-t-il après la Première
Guerre
mondiale ?
À vrai dire, il faut faire allusion à quelque chose de très important dans l'histoire actuelle de la diaspora arménienne, c'est le catholicossat de Cilicie. Tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il y avait aussi un catholicos en Cilicie, dans la ville de Cis, qui est la ville de Kazan, actuellement.
Voilà, c'est au sud-est de la Turquie actuelle, à la frontière syrienne.
Ce catholicos de Cilicie n'a pas les mêmes pouvoirs dans la hiérarchie de l'Église apostolique arménienne que celui d'Echmiadzin. Mais il jouait un très grand rôle régional. Il avait lui aussi un séminaire, il avait lui aussi une imprimerie, il avait lui aussi une extraordinaire bibliothèque d'archives de toutes sortes importantes. Et ce catholicos de Cis, qui s'appelle Sahak II, il faut le rappeler lui aussi, parce que lui aussi a une longévité extraordinaire.
Donc, second personnage important de cette renaissance arménienne après la Première Guerre mondiale. Donc, nous avons évoqué Kevork V et maintenant Sahak II.
Bon,
voilà.
Alors, ce Sahak II, important, qui est catholicos depuis 1902, va voir disparaître, lui, sur place, en 1915. À vrai dire, en 1915, il n'est pas sur place parce qu'il a déjà été exilé, heureusement pour lui, en 1916 à Jérusalem par les jeunes Turcs. Donc, il n'est plus sur place. Bon. Mais par contre, il apprendra que toute sa province a été massacrée. Enfin, bon, ça fait partie des épisodes du génocide arménien. Lorsque l'armistice est signé, Sahak II va suivre la Légion d'Orient, c'est-à-dire les volontaires arméniens qui accompagnent l'armée française au moment où celle-ci occupe la Cilicie, la France devient mandataire en Cilicie. C'est un événement qui a été souvent oublié, négligé. La France conservera le mandat de la Cilicie jusqu'en 1921, date à laquelle elle rendra ce territoire au nouveau gouvernement turc qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire le gouvernement kémaliste, qui n'est pas encore installé. Et ce Sahak II a suivi les armées françaises. Il est retourné en Cilicie, mais en Cilicie, il ne restait que 2 ans, donc de nouveau, il est reparti. Il a trouvé refuge où ? Eh ben, dans ce qui est le refuge naturel, je dirais, pour les rescapés du génocide arménien, Damas, Alep, qui reste jusqu'à aujourd'hui encore, dans l'enfer que vit la Syrie encore un centre spirituel extrêmement important pour les Arméniens, qu'il s'agisse des Arméniens apostoliques, catholiques ou protestants, parce qu'il y a 3 églises arméniennes à Alep. Et notre Sahak II est un catholicos en déshérence, sans peuple, sans territoire, sans siège, qui simplement bénéficie de la protection des Français, directement en Syrie, des Anglais aussi, et surtout qui dépend de l'entente entre la France et l'Angleterre sur l'avenir à la fois des réfugiés arméniens dans la région et aussi l'avenir éventuellement de ce catholicosat de Cilicie. Donc il erre, j'ai dit, Damas, Alep, Alep, Chypre. Et de Chypre, grâce à une entente, alors politique cette fois-ci, entre le gouvernement français et le gouvernement anglais, il est autorisé à venir s'installer à Beyrouth, d'abord dans les locaux d'un orphelinat de Near East Relief. Le Near East Relief, vous savez, cette association américaine extraordinaire qui a porté secours en Russie, à la famine en Russie, après 1900, au début des années 20, qui secourt entre autres les réfugiés de l'Empire ottoman. Et c'est là que ce catholicos Sahak II va retrouver, d'abord modestement, un siège. Bon. Il va se déporter de Beyrouth même à Antillias, qui est dans la banlieue de Beyrouth, et grâce cette fois-ci, alors, à un patriarcat qu'on a juste évoqué tout à l'heure, qui est le patriarcat de Jérusalem, et grâce à la direction très très intelligente d'un patriarche un peu aussi hors du commun d'Orient, il va obtenir un espace territorial. Il va devenir le catholicos du peuple arménien en mouvement.
Catholicos du peuple arménien en mouvement. Chère Anaïde, nous nous souviendrons de cette phrase. Merci beaucoup pour être venue jusqu'à nous.
Merci.
Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Jean-Michel Bernot pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant. Bon dimanche.